Voilà, nous avons 15 minutes pour discuter avant la pause.
Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je voulais commencer en remerciant d'abord les différents intervenants, et spécialement la dernière. Et justement, c'est à cette dernière que ma première question s'adresse. Constatant effectivement ce changement dans le comportement des praticiens, nous avons eu, comme disait le professeur Jean-Charles Moreau tout à l'heure, une expérience du programme Aquasu où moi j'ai coordonné personnellement l'activité au niveau de la région de l'extrême nord. Et à travers une supervision permanente des activités, suivie du staff matinal et la mise en place de la revue des cas, nous avons constaté que tout le personnel en fait se mettait au pas. Est-ce que ce n'est pas vraiment le manque de monitoring, supervision de nos activités dans les différents centres de santé qui font qu'au bout du compte, le personnel se dit ben, on peut faire aussi du n'importe quoi. L'autre question va s'adresser à Alexandre concernant le fait que les femmes, les sages-femmes ont tendance à ne pas quitter leur poste de travail et sachant qu'on a peu de gynécologues, comme ça a été si bien révélé dans le pays, et que en fait la fuite de cerveau, c'est souvent les médecins. Est-ce que vous avez pensé que quelque part on pourrait aussi capaciter certaines de ces sages femmes qui ont quand même bac plus 3, plus 5, pour qu'elles puissent remplacer les gynécologues à certaines tâches de césarienne, ce qui pourrait permettre donc aux gynécologues de s'occuper de d'autres tâches plus importantes? Et à Luc, par rapport aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, nous avons bien compris c'est les sonneux de base, les sonneux complets, mais la question que je me pose et que j'aimerais bien avoir un commentaire de vous, c'est par rapport à la rupture utérine. Donc, Luc, c'est par rapport à quel niveau on place la prise en charge des ruptures utérines, des traumatismes de la vessie, des perforations digestives. Puisque ça ne se trouve pas dans les sonneux de base, ça ne se trouve pas dans les sonneux complets. En fait, nous gérons ces situations au niveau des hôpitaux généraux, des hôpitaux universitaires. Qu'en est-il en fait? Quelle est la place? Comment est-ce qu'on appelle cela? Et une dernière question à Kayejo, juste pour demander si vous avez pensé à l'implication des hommes, male involvement.
Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants par rapport à toutes ces présentations. Et la dernière du reste nous ramène à la réalité. Je crois qu'on a vu à travers la présentation du docteur de Bernice, qu'est-ce que sont les stratégies ou les interventions qu'on a mises en place jusqu'ici? Et à quoi ça nous sert aujourd'hui tous les engagements politiques, même si Dr. de Bernice avait noté une insuffisance de volonté politique? Moi, je dirais qu'il y a cette volonté politique. C'est ce qui a permis de prendre tous ces engagements, qu'ils soient au niveau mondial ou au niveau national. Il y a eu beaucoup d'engagements pris. Mais pourquoi ces engagements n'ont pas permis d'amorcer les actions et les interventions efficaces? C'est là où interviennent peut-être les insuffisances de nous-mêmes en tant qu'acteurs du système de santé à donner la bonne information ou à renforcer le plaidoyer pour que les actions concrètes soient prises au niveau des gouvernants. Est-ce que ce sont des actions politiques par rapport à l'allocation des ressources, par rapport à la prise en compte de la pénurie du personnel, etc.? Je crois qu'il y a un déficit dans les bases factuelles qu'on présente aux gouvernants pour prendre les décisions. Voilà. Là où le problème est, je pense que le président de la séance d'hier a bien expliquer comment il a pu amener un responsable gouvernemental de prendre une décision par rapport à la mortalité maternelle. Et je crois que c'est là où on doit bâtir. Il ne faut pas que les stratégies ou les interventions efficaces, coûts efficaces qu'on a déterminées à un moment X, on les abandonne au profit d'autres. Et c'est ce qui m'amène à dire qu'il y a une insuffisance qui n'a pas été suffisamment détaillée ici. C'est l'insuffisance de coordination et d'harmonisation par rapport à l'aide même au développement. Parce que beaucoup de stratégies ne sont pas appropriées par les pays. Elles viennent parfois, on dit, bon, la mode, c'est à Kwasu. Il y a eu une période où on faisait vraiment les audits des mortalités, des décès maternels dans nos structures de santé. C'était bien à soutenir, à consolider et à mettre à l'échelle. Et on a abandonné ça au profit, ben on va dire, c'est vrai que la stratégie des soins obstétricaux et néonataux d'urgence est importante. Elle a montré son efficacité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter celle qui était là avant. Ça, c'est un point. Il y a un aspect par rapport au renforcement du système de santé. Je crois qu'il faut qu'on inverse l'analyse du cadre d'intervention. Parce que le renforcement du système de santé, c'est pourquoi ? C'est pour qu'il y ait 6 piliers au moins du système de santé. Et si on revient à analyser les 3 piliers de la mortalité maternelle, on peut les rattacher et faire des liens avec chacun des piliers du système de santé. Cela veut dire qu'il faut changer les paradigmes et changer les approches et utiliser cette approche du système de santé pour pouvoir combattre la mortalité maternelle. Merci.
Merci pour votre contribution consistante. Madame Diop Binta.
Merci, Monsieur le Président. J'interviens en tant que responsable de la formation continue et de la recherche au niveau de l'École nationale de développement sanitaire et social, qui forme les infirmiers, les sages-femmes et les cadres infirmiers du Sénégal. Et là, je vois que tout tourne autour de la sage-femme. Et il ressort des différentes études qu'il y a un problème réel qui se pose avec les sages-femmes. Et nous-mêmes, nous l'avons constaté sur le terrain. Je pense que, comme l'a dit ma prédécesseur, il y a un problème. Vous avez dit qu'il y a la volonté politique. Il y a une volonté politique, mais il y a absence de suivi de cette volonté politique. Parce qu'avec la feuille de route multisectorielle, il était question au Sénégal de combler le gap en formant au moins 225 sages-femmes par an de 2006 à 2015. Alors, on a libéralisé les écoles privées de formation en santé. Maintenant, on est à plus de 1000 sages-femmes chômeurs que l'État n'a pas recruté. Parce que depuis 2005, l'État n'a recruté que 100 sages-femmes. Ici, ajoute les conditions de travail très défavorables. Et comme c'est démontré, la formation ne fait pas défaut parce que la sage-femme qui vient de sortir a des réflexes. Mais une fois sur le terrain, avec la routine, ça revient en arrière. Et comme l'a dit tout à l'heure le président, il y a des projets qui sont mort-nés parce que le projet très intéressant aurait pu être amené au niveau de l'école de base, ne serait-ce que pour nous permettre de pouvoir consolider les acquis et de tout faire pour suivre les sages-femmes qui sont sorties sur le terrain, pour leur inculquer les valeurs et continuer à œuvrer dans le sens de suivi de partogramme, etc. Et je profite de l'occasion pour rassurer l'avant-dernière intervenante de la table ronde de cette matinée, pour lui dire qu'actuellement, les soins après avortement sont intégrés dans le curriculum de base des sages-femmes et qu'il y a une formation qui se fait pour les sages-femmes sortantes. Merci.
La parole est à Yannick Jaffré.
Ce qui me semble, c'est qu'entre les belles interventions de ce matin et celles de cet après-midi, On voit apparaître aussi quelque chose qui est un peu au cœur de ce colloque ou de cet atelier sur l'articulation entre l'anthropologie et d'autres disciplines. C'est qu'on voit bien que lorsque, par exemple, Luc nous parle d'accès à des personnels qualifiés, de planification familiale, de soins, etc., tout ça, c'est tout à fait juste. Le problème, c'est que c'est tellement décontextualisé que c'est à la fois nécessaire, mais en même temps, quand on met en place des actions, c'est un peu comme de l'eau sur des plumes de canard. Ça coule. Ça coule parce que, à la fois, c'est nécessaire, mais en même temps, d'une certaine façon, c'est pas vrai. Alors, quand on regarde ce que nous dit Patricia à la fin, eh bien, ce qu'on voit, c'est apparaître, en fait, le vrai, d'une certaine manière. Je reprends juste sur quelques tout petits termes. On a parlé ce matin, et on en parle encore cet après-midi, de la question des identités professionnelles des sages-femmes ou des personnels de santé. Et d'une certaine façon, c'est impossible de comprendre les pratiques professionnelles sans penser que la personne est à la fois une professionnelle, mais aussi une personne dans la société. Et que, par exemple, quand on détourne de l'argent, c'est parce qu'on a des obligations sociales de redistribution ou parce que son enfant est dans une école privée. Donc, ce qu'apporte l'anthropologie, c'est cette obligation de penser ensemble et conjointement les interrelations entre identité professionnelle et identité sociale. Quand on parle de la notion de qualité, on peut la décrire de façon comme ça abstraite, mais en même temps, ce que montre par exemple Patricia, c'est que dans certaines situations d'urgence, l'urgence vient rappeler aux gestes techniques, alors que quand on est dans la routine, on oublie les gestes techniques. De la même façon, quand on parle de l'entente entre les personnels, c'est à la fois quelque chose de bien pour les personnels, c'est positif, mais on sait très bien que les groupes d'entente des sages-femmes pour aller dans les baptêmes, c'est aussi quelque chose qui fait que l'on empêche les sanctions possibles, puisque tout le monde se tient par la barbichette, personne ne va dire quoi que ce soit. Donc ce qui me semble, c'est que vraiment on est là un peu au cœur du travail, c'est-à-dire que tous ces travaux ont été publiés, pour certains, par exemple, sur l'identité sociale des sages-femmes, depuis les années 93. Et la question que je me pose, c'est, pour un certain nombre de gens qui sont à la tribune, ils ont lu ces travaux des anthropologues, et je m'en félicite. Le problème, c'est jusqu'à quel point les décideurs sont prêts à faire entrer dans la définition des programmes des notions comme celle de normes pratiques. La notion comme celle, par exemple, de système distributionnel de l'action, qu'on peut présenter de façon très simple, ou de penser que l'identité des personnels de santé doit être conjuguée avec l'identité sociale. Et toutes ces questions-là, c'est-à-dire c'est vraiment là que ça se joue. Parce que tant qu'on ne profitera pas des travaux des anthropologues qui essayent de montrer la complexité du réel, on va définir des programmes, mais entre la définition du programme et sa possible application, il y a un fossé qui est complètement infranchissable parce que les concepts qui servent à construire les programmes ne sont pas les concepts qui permettent de les appliquer.
Merci beaucoup pour cet élément de réflexion. Je passe la parole à Madame Patricia Vasseur, qui est la Madame au Présidium.
Donc en fait, la question traitait du problème de la supervision. Alors, je pense qu'à ça, faut déjà savoir ce qu'on entend par supervision. Est-ce que c'est cadrer une équipe des sages-femmes ? Est-ce que c'est faire un monitorage des activités ? Est-ce que c'est faire des staffs ? Si c'est ce qu'on entend par supervision, de mon expérience, c'est pas suffisant. Si on considère qu'on va superviser en cherchant à ce que les professionnels s'approprient réellement les actions qu'ils mettent en place, là, oui, ça devient intéressant. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ce que j'ai décrit a montré que, on sort d'une école, on pense qu'en 3 ans, des techniques, des actions, des raisonnements sont appropriés. Et sur des petites choses, ça va switcher. Et en fin de compte, on se rend compte que c'était juste entendu, compris, mais qu'on passe jamais véritablement à l'acte. Donc je pense que c'est s'approprier, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de nos rencontres miroirs. Et c'est vrai qu'en 2 ans, on avait des résultats très sympathiques, qui n'ont pas porté suite, qui n'ont pas porté leurs fruits comme on aurait souhaité, malheureusement. Et pour des raisons, entre autres, politiques, de politique locale. Mais je pense que s'approprier, donc faire une bonne supervision, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine. et qu'il faut y croire. Ça signifie pour les professionnels de croire réellement aux actions qu'ils vont mettre en place. Et je pense qu'on peut parler d'actions appropriées quand pour les sages-femmes, les médecins, etc., en fait, ces actions sont contrôlables lorsqu'elles viennent d'eux-mêmes. Ce sont eux qui les produisent. Hein, et lorsque ces professionnels savent qu'ils peuvent les modifier. À partir du moment où on peut agir sur quelque chose, je pense que là, ça devient du réel. Mais ça veut dire faire tout à fait autrement les supervisions par rapport à ce qui existe.
Deuxième question, sur le plan de carrière.
Pardon, voilà. Au craint de vous décevoir, je n'ai pas la réponse forcément à cette question, parce que ça, c'est justement une question qu'il faut adresser aux politiques. Vous parlez de délégation de compétences, donc qu'est-ce qu'on peut déléguer et à qui ? Il y a eu plusieurs expériences hein, de tout ça, notamment pas forcément que les césariennes, hein, mais aussi des gestes moins invasifs comme la ventouse ou le forceps. Dans certains pays, dans certaines régions, on a vu en formant les sages-femmes, on peut arriver à faire de la pratique obstétricale un peu plus interventionniste. Est-ce que les sages-femmes doivent faire des césariennes ? Je dirais que c'est un peu contradictoire avec l'objectif initial de cette formation. C'est-à-dire que les sages-femmes sont censées gérer le travail, l'accouchement normal. Et justement, elles sont garantes de cette physiologie normale. Et souvent, elles contrebalancent le côté un peu interventionniste des médecins. Donc il faudrait éviter de les mettre à faire des césariennes parce que du coup il y aura plus de contrepoids, mais ça peut aussi rendre service dans certains endroits effectivement où on a un déficit. Alors j'ai pas la réponse, ça c'est vraiment localement il faut en discuter, peut-être que ça peut combler un déficit momentanément. Il y a des endroits où j'ai vu effectivement des césariennes ou même des infirmiers. C'était pas totalement officialisé, mais qui avaient déjà une expérience très très importante par leur pratique, faire des césariennes. J'aime bien cette idée de déléguer les compétences, mais il faut vraiment que ça se négocie, à mon avis, localement, en fonction des besoins, et que ça s'évalue aussi. Parce que des fois, déléguer les compétences n'a pas forcément les effets attendus.
Docteur De Bernis.
Merci. Si je peux continuer sur cette question, effectivement, la question de déléguer à une sage-femme se pose dans les endroits où il y a beaucoup de sages-femmes. Il y a trop de sages-femmes par rapport au ratio de gynéco-obstétriciens ou de chirurgiens. Dans la plupart des cas, ce n'est pas les sages-femmes qui sont en trop, ce sont d'autres professionnels lorsqu'ils sont en trop. Et en général, la balance est en défaveur des sages-femmes. Et dans certains pays où on a beaucoup d'infirmiers, des infirmiers qui deviennent extrêmement expérimentés, ils ont été formés, ils sont formés pour faire des césariennes ou pour gérer les soins obstétricaux d'urgence complets. Et on a d'excellents résultats, c'est documenté, c'est extrêmement coût-efficace. Ça marche dans des pays comme le Mozambique, comme le Malawi, comme le Niger, la Tanzanie en particulier. Et il y a de la littérature là-dessus. Dans les pays ouest-africains, le seul pays qui, à ma connaissance, il y a deux expériences. Il y a les médecins de district du Sénégal, qui ont été formés à faire tourner les blocs opératoires, en particulier pour faire de la césarienne. Ça a été évalué, ça a été publié. L'autre expérience, c'est le Burkina Faso, où ce sont là des médecins aussi qui ont été formés pour faire des médecins généralistes qui ont été formés pour faire des césariennes. Les pays francophones ne se sont pas dirigés vers la formation d'infirmiers. Ça va peut-être venir. En tout cas, c'est quelque chose qui avance très fort au niveau des pays anglophones. Donc sur cette question, tu m'as posé une question sur les ruptures utérines, les traumatismes de vessie, etc. Quand on parle de soins obstétricaux complets, on parle de chirurgie gynécologique plus que de césarienne. Donc tu as raison de me reprendre sur ce plan-là. Il est absurde de savoir faire une césarienne si on ne sait pas faire une césarienne compliquée. Et donc une césarienne compliquée, c'est une ouverture abdominale sur une rupture utérine et il faut savoir faire une hystérectomie. Donc normalement, la formation en chirurgie obstétricale doit dépasser la césarienne. La césarienne est un des gestes les plus simples, mais il faut en savoir en faire d'autres si on veut se sortir de complications délicates. Est-ce que je... Oui.
Merci Luc pour ces éléments de réponse. Je crois que Pierre-Marie est satisfait. Il y avait une dernière question qui lui brûlait les lèvres. C'est à propos de l'implication des hommes. Je ne vois pas docteur Oyerinde. Je crois qu'il est interpellé. Ou s'il y a d'autres membres de l'équipe. Allez-y.
Well, let me just say that the needs assessment are facility-based studies. So in that context, men are involved, because men are working in those facilities, so we interview them when we find them there. Whoever we found there, male or female, we interview them. So there's no gender discrimination here. We take everybody we find there. That's one. Two, let me just go back quickly to the issue of task shifting. Actually, in Mozambique, they have used non-midwives. In some cases, they've trained people who are not midwives, who are not nurses, but who are trained straightforward as technicals to provide surgery. And they've done studies to show that there has been no difference in the level of performance of these people when compared to medical officers trained to do surgery. And if you look at the distribution of where they place them, 5 years after, if you go back, they were still where they were placed. Whereas the same colleagues who are medical doctors and OBGYNs have moved to the capital or left the country. So they found it very useful to use these technicals to at least disperse their coverage of obstetric surgery. Thank you.
OK, donc, en réponse à la question de savoir si, au regard du fait que les sages-femmes ne sont pas très mobiles, ne quittent pas leur poste, alors que les médecins sont toujours en train de partir de la région et voire du pays, si on ne pourrait pas former les sages-femmes pour pouvoir pratiquer les césariennes. Ce que disait Oyerinde, c'est que en réalité, c'est une pratique qui est déjà suffisamment expérimentée dans certains pays comme au Mozambique. Et puis, on a donc des infirmiers qui sont formés pour faire des césariennes. Et lorsqu'on fait la comparaison par rapport aux césariennes, aux zones où il y a plutôt des médecins, il n'y a pas de différence, dont la morbidité n'est pas plus élevée parce que la pratique est faite par les infirmiers. Et ce qui est encore de plus de notable, c'est qu'au bout de 5 ans, lorsqu'on revient sur le poste, on se rend compte que l'infirmier, il est toujours là, alors que là où il y avait les médecins, ils sont déjà partis, soit de la région, soit du pays. Merci.
OK, donc il y a une question qui avait été soulevée par Yannick qui interpelle les décideurs. Comment amener les décideurs à allier l'identité professionnelle à celle sociale? C'est bien ça, en d'autres termes. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Je pense que Luc voulait intervenir dans ce sens.
C'est tout l'objet du séminaire. Donc, je pense qu'il faut aussi ne pas mettre en opposition ceux qui ont la vérité, ceux qui ne l'ont pas. Le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'on a besoin de différentes approches, qu'il faut savoir ce qu'on doit réaliser. Donc, il faut connaître qu'est-ce qu'il faut réaliser en termes d'actes médicaux, savoir ce qui permet de résoudre les problèmes. Et ensuite, il faut réfléchir ensemble à la mise en œuvre des stratégies qui permettent la résolution des problèmes. Donc, je pense qu'on est au cœur de la discussion. Et c'est probablement ce que tu dis aussi. Donc, on est d'accord là-dessus. Donc, le problème, il n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Le problème, il est de voir comment est-ce que chacune des composantes va pouvoir s'articuler. Il faut aussi, je crois, tâcher de faire ce qui est possible pour avancer rapidement. Et il faut suivre de très près ce qui se passe quand on met en œuvre. Et je pense que ce qui est manquant dans la plupart, ou pour pas dire de tous les programmes, c'est qu'on a des idées, on les met en œuvre et on ne regarde pas ce qui se passe lors de la mise en œuvre et on évalue très rarement ce que l'on fait. Donc je pense qu'il y a un changement d'attitude, et là je parle pour les responsables de programme, et on est en train d'en discuter, par exemple, au sein de mon organisation, savoir, on dépense de l'argent, on donne des contrats à des ONG ou à des opérateurs qui mettent en œuvre des programmes qu'on a définis et qu'on pense extrêmement bons, et on ne dépense absolument pas d'argent pour regarder ce qui se passe lors de la mise en œuvre et pour évaluer. Donc, on a des résultats qui sont quelquefois dramatiquement mauvais ou assez contestables, et c'est cela, à mon avis, une des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, c'est cela. C'est ce qu'on appelle aussi la science de la mise en œuvre, implementation research, et c'est des discussions qu'on a avec nos collègues de Columbia. Comment est-ce qu'on peut s'équiper pour que la mise en œuvre des programmes soit documentée et que toutes ces choses que l'on sait qui vont poser problème, je parlais des différentes dimensions du système de santé, on a entendu parler de toutes ces dimensions humaines qui ont trait au personnel de santé, aux pratiques médicales. Comment est-ce que cela, ça peut être monitoré, ça peut être identifié, et que des solutions en cours de mise en œuvre des programmes, que des solutions soient trouvées. Les choses qui manquent dramatiquement, c'est les questions des supervisions. Il n'y a plus de supervision. Quelque chose qui était, il y a 15 ans, extrêmement en avant même plus que 15 ans, extrêmement en avant. Il y a eu plein de publications sur comment est-ce qu'on fait des supervisions. Il y a eu des méthodologies qui ont été décrites, etc. La supervision a complètement disparu. Et je pense que le soutien dont on parle pour les professionnels de santé qui sont formés, complètement isolés, sans recevoir, au contraire, on préfère les oublier, parce que pour une fois qu'il y a une sage-femme qui a été se mettre au fin fond de la brousse, il vaut mieux la laisser là pendant 15 ans, parce que si elle commence à exprimer le fait qu'elle a envie de changer, c'est un problème, donc on ne va pas pouvoir le résoudre. Donc il vaut mieux l'ignorer, il vaut mieux... Donc tout ce qui est la supervision, le soutien au programme, etc., est quelque chose qu'il faut complètement repenser. Voilà un élément de réponse, mais évidemment il y en a d'autres.
Y a-t-il d'autres idées aussi lumineuses, Alain ?
Je ne suis pas sûr de pouvoir être très lumineux maintenant, mais je voulais revenir parce qu'on a posé les questions à la salle, de poser des questions aux membres, aux éminents membres présentateurs qui sont devant nous. Mais Coyer a posé une question aux anthropologues, et je pense que c'est une question extrêmement pertinente, que je me pose depuis 20 ans, et je suis heureux de voir que Coyer pose la même avec beaucoup plus de vigueur, puisque ça vient de Columbia. C'est pourquoi passe-t-on de 80% de consultations prénatales à en gros 40-50% d'accouchements institutionnalisés. Et à mon avis, c'est ça la vraie question. On peut toujours tourner autour du pot, on peut faire tous les baratins qu'on veut, on passe quand même de 80%. Et ce qu'il a dit me paraît extrêmement pertinent. Si les femmes utilisent les consultations prénatales, et on sait que même en milieu rural, elles ont 80% de consultations, on a en gros dans toute l'Afrique, quelle qu'elle soit, anglophone, francophone, du sud, de l'est, etc., on est à peu près autour de 80-85% avec 3 consultations prénatales. Or ça, c'est frappant. Or, quand on vient à l'accouchement institutionnalisé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'accès. C'est pas vrai. Quand on nous dit qu'il y a un problème d'accès, c'est pas vrai. Il y a un problème d'accès peut-être pour les 20% de gens. Il y en a quand même 80% des femmes qui vont 3 fois en consultation prénatale. Aller en consultation prénatale, ça, on fait des heures de marche à pied ou de transport. On fait des heures de queue pour être vu pendant 2 minutes par une sage-femme pas aimable. Et on retourne chez soi après. C'est quand même ça, la réalité. Bon, et donc, les femmes y vont quand même 3 fois et elles ne reviennent pas ou beaucoup moins pour l'accouchement. Donc, il y a entre les deux quelque chose qui se passe. Et je pense que là, c'est une vraie interrogation pour les anthropologues. Moi, j'ai lu beaucoup d'anthropologie. Je suis sûrement un des médecins qui en a lu le plus sur ces sujets-là. Et à chaque fois que je vais dans un pays, j'essaie de trouver ce qui a été publié, enfin, ce qui a été écrit par des anthropologues. C'est d'une qualité inégale, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, je vais donner 2 exemples, mais je pense que ça, c'est vraiment au cœur du sujet. Ce qu'a montré, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est dans la salle, Fatou, dans le cadre d'Akwasu au Burkina, c'est quand on demandait aux femmes pourquoi elles allaient en prénatal, c'est simplement pour avoir le carnet. Parce qu'au cas où elles aient besoin d'aller accoucher dans une maternité, elles allaient se faire insulter par les sages-femmes si elles n'avaient pas le carnet. Bon, c'est des choses aussi bêtes que ça, quoi. J'ai lu une étude extraordinaire sur le Maroc où on interrogeait des femmes berbères, donc qui ne parlent pas arabe, qui avaient accès, qui vivent dans des montagnes souvent très isolées en hiver, pourquoi elles allaient en prénatal avec le même pourcentage, malgré des conditions géographiques bien, bien pires qu'ici. Pourquoi elles allaient en prénatal et pas à l'accouchement? Et les réponses sont absolument extraordinaires. Elles ont dit, mais pourquoi on irait accoucher dans un hôpital? Un hôpital, c'est pour les malades. En prénatal, on nous dit que tout va bien. Donc j'ai aucune raison d'aller accoucher dans un hôpital puisqu'on vient de me dire que tout va bien. Bon, c'est extraordinaire de lire ça. Bon, moi, quand j'ai présenté ça au comité national au Maroc, tout le monde était scotché en disant « Bah oui, bah finalement, c'est évident, quoi. Les acteurs ont leur logique et leur compréhension qui n'est pas du tout la même que la nôtre. » Et je pense que là, la question... Je pense que c'est vraiment, enfin pour moi, c'est essentiel qu'on se penche sur cette question et on répondra à beaucoup, beaucoup de choses et qu'on arrête de dire il y a des problèmes d'accès, il y a des problèmes de tout ça. Quand on voit le taux de consultation prénatale, c'est pas vrai. Il y a un problème pour l'accouchement, ce qui est une autre histoire.
Oui, je crois que on peut rester ici jusqu'à une heure tardive parce qu'en matière de décès maternel, les responsabilités sont partagées. Il y a la communauté, il y a les agents de santé, les pouvoirs publics. Je prends un pays comme le Sénégal qui fait 6 fois moins que le Mali ou le Niger en termes de superficie, 5 fois moins que la Mauritanie. Les problèmes d'accessibilité socioculturelle, géographique ou financière sont réels. On ne peut pas les occulter. Madame a parlé tantôt des pouvoirs publics. Volonté politique dans les beaux discours, la belle rhétorique, d'accord. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Volonté, engagement politique, voire courage politique. C'est le terme qu'on doit utiliser. Je suis désolé, Alain. On peut revenir dans d'autres débats sur ça. La consultation prénatale ne réglerait pas tout. Ça, on est d'accord. Les SONU, si les mesures d'accompagnement ne sont pas remplies, ne régleraient pas tout. Pendant ce temps, vous avez, je disais hier aux journalistes, plus de 400-500 sages-femmes qui chôment. Diplômés, certains ont leur dossier au ministère de la Santé depuis 2005. On me dit que c'est 1000. Niger, l'année passée, à la même période, décembre, on avait tenu une table ronde. Monsieur Franck, Madame Collis ne peuvent en témoigner. Recrutement de 1000 agents de santé, il n'y avait que 8 sages-femmes. Je parle sous le contrôle de la présidente de l'Association des sages-femmes du Niger. Alors, vous pensez que là, les consultations prénatales, le carnet va régler le problème? Ou la seule sensibilisation du grand public, c'est autre chose? Oui, d'accord. Bon, un autre intervenant.
Oui, monsieur le président. Alors, moi, je reviens sur le... Parce que ce qui est transversal dans ce qui a été présenté, c'est quand même le personnel. La question, donc, des ressources humaines. Mais un fait est là, c'est que je pense que le contexte est extrêmement important. Et quand je parle du contexte, c'est le contexte général de chacun des pays. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau de la santé, c'est vrai que c'est plus marquant parce qu'on parle de vie humaine. Mais c'est la réalité dans tout ce qui se passe dans nos pays, marqué par la corruption. Ça, c'est un élément important où les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Et ce qu'on présente comme miroir social aujourd'hui dans nos pays font que les agents de santé qui sont dans ce contexte-là, mais sont amenés aussi à vouloir emprunter cette voie, même si on parle de vies humaines. Vous prenez dans nos pays les belles villas qui poussent, etc., pour des gens qui n'ont pas fait... Les personnels aussi de santé veulent. Donc c'est ça qui contribue à tout cela. Donc je pense que le contexte général dans nos pays-là, c'est extrêmement important. Les gouvernants, aujourd'hui, dans nos pays, ils prennent les engagements. Parce qu'ils savent que s'ils ne prennent pas les engagements, ils ne vont pas avoir les financements des bailleurs de fonds. Mais qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est ça, je crois, qui est le gros problème. Quand on parle du personnel de santé, la question de la redevabilité que quelqu'un a posée est extrêmement importante. Mais vous ne pouvez sanctionner aucun personnel de la santé? Si vous êtes chef de district, comment vous allez faire? parce qu'il a des accointances avec un tel qui a des accointances avec tel ministre, etc. Donc je pense que le contexte général joue extrêmement en défaveur. Il y a des stratégies qui sont proposées pour améliorer la situation. Et actuellement, on voit qu'il y a les aspects de financement basés sur les résultats, etc. Mais je pense que tant que le contexte n'a pas changé, ça va être extrêmement difficile. Un autre point qui me paraissait aussi, je voulais revenir à la présentation du docteur Koye pour ce qui concerne les enquêtes MNOC. Au Burkina, ce n'est pas planifié, c'est déjà fait. L'enquête est déjà faite, donc je tenais quand même à apporter donc cet élément de choses. Et être d'accord que ce qui fait véritablement problème, c'est les accouchements instrumentalisés, l'utilisation de la ventouse, du forceps, etc. Et ça, c'est dans tous les pays. C'est l'une des fonctions qui est le moins pratiquée. Mais simplement parce que quand vous allez en milieu rural, dans les services de santé, ce ne sont pas des sages-femmes, ce n'est pas des sages-femmes qui y sont. Au Burkina, c'est des accoucheuses auxiliaires qui ne peuvent pas utiliser du tout ces instruments. Donc ça fait qu'on n'a pas de formation santé soutenue. Merci, voilà tout ce que je voulais dire.
Merci monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne les sanctions à prendre. Sanctions positives, d'accord, sanctions négatives, c'est autre chose, en tout cas au pays de la Teranga. C'est pourquoi dans le travail de mon ami Alexandre Dumont, j'ai vu qu'il y avait 2 licenciés. Alors je suis un peu surpris. Alors il nous dira peut-être pourquoi, pour quel motif. Rachel, vous avez la parole.
Okay, merci, professeur. Moi, je voudrais intervenir sur la question de task shifting, parce que c'est très important. Il y a plusieurs pays qui ont effectivement examiné, enfin, qui expérimentent cela. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une déviation, parce que quand je pense, quand cette idée a été mise, c'était un peu pour répondre à la question que le premier intervenant dans la salle a posée. Pourquoi ne pas développer effectivement des compétences pour ces sages-femmes, pour non seulement les maintenir dans le cadre et essayer de développer leur profession. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette profession aujourd'hui, cette task shifting aujourd'hui, on la délègue, on peut faire la donner aux infirmiers. Et je parle parce qu'effectivement, nous avons un programme de renforcement des capacités des sages-femmes. Et aujourd'hui, les sages-femmes en Éthiopie sont en train de se plaindre. Elles sont en train de se plaindre parce qu'elles ont constaté qu'on pouvait faire effectivement former, même si l'exemple qui a été montré, distribué lors des conférences, c'est une sage-femme qui a été formée. Mais en réalité, on a bloqué maintenant cette formation en chirurgie aux sages-femmes pour la donner effectivement aux infirmiers. Moi, je pense que en tant que sage-femme, je pense que Patricia est bien placée. On a eu l'autre anthropologue qui a effectivement fait cette étude sur les sages-femmes. L'épuisement, voilà, donc l'épuisement professionnel est là. Lorsque vous avez déjà fait 4 ans, je parle de 4 ans, mais il y en a qui ont fait 30 ans. Lorsque vous avez fait 4 ans en salle d'accouchement, même si vous aimez la profession de sage-femme, même si vous aimez faire les accouchements, vous allez subir ce burn-out. C'est inévitable. Et ça, nos gouvernements ne veulent pas entendre parler de ça. Je peux vous dire tout simplement, je peux vous prendre un cas concret de moi-même, parce que parler des autres, c'est bien beau de dire, elles sont comme ça, elles sont comme ci. Mais je vais vous prendre un exemple, professeur, excusez-moi, mais pour essayer d'attirer l'attention des gens. Je suis dans une salle d'accouchement, CHU de Libreville, enfin, embryon de CHU de Libreville. Nous sommes 2 de garde, nous devons gérer 2 salles d'accouchement. Il y a 2 lits dans chaque accouchement. Et il y a une urgence, donc moi, je vais au bloc opératoire avec le gynécologue pour une césarienne. Je laisse ma jeune sage-femme de 4 ans. Moi, ça fait 8 ans d'expérience. Elle a 4 ans. Donc, elle reste dans les 2 salles d'accouchement. Et moi, je sors avec le bébé, j'habille le bébé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la césarienne. Mais ce qui s'est passé, c'est que les 2 salles se sont remplies et il y avait d'autres dames assises. Quand j'arrive, je dépose le bébé. C'est la femme qui est sur le premier lit qui m'appelle pour me dire « Madame, je vais pousser ». Donc, effectivement, comme tu dis, le premier réflexe, c'est de prendre le doigtier, d'examiner. Effectivement, elle est en train d'expulser. Donc, je fais l'accouchement de cette dame sans savoir que je suis dans une salle en ce moment. Il y a 2 qui sont assises, 2 femmes qui sont assises. L'autre côté, dans l'autre salle, il y a d'autres femmes. Et il y a une qui est sur un lit juste à côté. Mais je ne la vois même pas parce que la surcharge de travail fait en sorte que je me suis occupée de celle qui m'a appelée. Donc, je termine l'accouchement et puis... je prends la malade parce qu'il n'y a pas de brancardier. Je dois prendre la malade, je dois donc aller déposer la malade au deuxième étage avant de revenir en salle d'accouchement. Je prends le bébé dans une main. Je suis allée prendre le brancard, j'ai mis la dame sur le brancard et je suis en train de pousser avec le bébé et la femme sur le brancard. Et j'entends une dame qui me dit, Rachel, je t'attends. Je ne vous dis pas, sous la pression, j'ai seulement dit, j'ai répondu à cette dame, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Tenez-vous bien, je suis partie, je suis revenue. Cette femme ne m'aurait pas connue, la dame qui me dit, Rachel, je t'attends, ne m'aurait pas connue, elle m'aurait traité de tous les noms. Mais quand je suis revenue dans la salle, j'ai commencé par la première salle pour évaluer effectivement qu'est-ce qui s'était passé. Je reviens dans la deuxième salle et je rencontre cette dame et je réalise que c'est ma propre belle-sœur. Et elle me dit, elle de me dire, si je ne t'avais pas connue, comment est-ce que tu avais l'habitude de travailler? Mais honnêtement, je t'aurais traité comme toutes les autres sages-femmes. C'est tout simplement pour vous dire que la pression, c'est-à-dire que vous pouvez être une très bonne femme, une bonne sage-femme. Vous vous levez le matin, vous venez à votre lieu de travail, vous êtes toute heureuse, vous commencez à faire des accouchements. À un moment donné, il vous manque le doigtier, il y a une femme qui est en train de saigner, il vous manque telle intervention, la pression monte. Donc ça va vous amener au burn-out. Et ce que nous avons constaté, c'est que nos autorités ne pensent pas à la formation continue. Comment faire? Parce que ce que la sage-femme demande, c'est qu'elle veut se développer pour aimer en restant dans son domaine. Et nous pensons qu'effectivement, c'est cette possibilité de tâche shifting. Effectivement, elle ne reviendrait pas forcément en salle d'accouchement, mais elle peut être suivante d'unité. Elle est là toute la journée. Donc, quand il y a une urgence, la sage-femme qui est en salle d'accouchement sait que la suivante d'unité a la capacité de faire une césarienne. Et ça peut faire effectivement aider aux sages-femmes à se développer.
Il me semble que les quatre dernières interventions dans la salle disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand Alain parle des consultations prénatales, en fait, ce qu'il montre, c'est que derrière cette enveloppe technique se passent de multiples stratégies sociales et des conduites d'acteurs. De la même façon, quand on évoque la corruption dans les services de santé, ça veut dire que quand on met en place des systèmes de recouvrement des coûts, de paiement standardisé, le problème, c'est que ça correspond aux pratiques réelles. Donc on a un prix affiché, mais c'est jamais celui-là qui est payé. Quand on parle des sages-femmes et des pratiques des sages-femmes, en disant que dans certains cas, on est appelé et il faut connaître la personne aussi pour agir et en même temps pour être reconnu. Bon, tout ce que décrivent ces choses-là, en fait, ce sont des bribes de réel. C'est les pratiques d'acteurs dans le cours des vies quotidiennes. Et je pense que la question qu'on se pose, et je pense que Luc serait d'accord là-dessus, c'est qu'on a énormément de programmes qui sont top-down. Mais on n'a presque rien qui soit bottom-up, au sens où qu'est-ce qui se passe réellement quand on décrit les conduites, et qu'est-ce que l'on peut essayer de construire en connaissant les contraintes des acteurs, contraintes des populations et contraintes des personnels. Et en général, ce qu'on fait, c'est assez naïf, c'est-à-dire qu'on continue à mettre en place des modèles et on essaye assez naïvement de faire entrer le réel dans nos modèles. Alors qu'il y a sans doute une démarche qui est complémentaire et peut-être plus intelligente, qui serait de décrire le réel avec ses contraintes et d'essayer à partir de ça de construire des systèmes localisés sans doute, mais qui soient des systèmes cohérents avec les contraintes socio-économico-culturelles des pays.
Merci pour cet élément de réflexion. Encore une fois, les dialogues médicaux, j'entends par médicaux les spécialistes, les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmiers, les agents de la santé. Donc, dialogue entre médicaux et non médicaux, entre guillemets, c'est-à-dire les amis de la santé, sociologues, démographes, anthropologues, économistes de la santé, experts en communication, juristes, etc. Ce dialogue-là se fait de plus en plus. Mais est-ce que ces non-médicaux alertent les pouvoirs publics, qui sont incontournables, si on veut avancer? C'est une piste de réflexion que j'engage. Pour revenir encore une fois sur, comme on dit en Wolof, « need do machine », l'être humain, ce n'est pas une machine. Quand une sage-femme se retrouve seule, avec une maternité,
il y a un volume de travail excessif, c'est autre chose. Et c'est ce que nous vivons malheureusement dans nos différents pays. Au nord du Sénégal, à 400 km de Saint-Louis, frontière avec la Mauritanie, il y a l'hôpital départemental de Wourossogui. En 93, pour un hôpital, c'était une seule sage-femme. Aujourd'hui, il y en a trois ou quatre. Et au moment où je parle, c'est peut-être la même chose à l'hôpital de Tambacounda, à 500 km d'ici. Cette étude présentée par Mme Patricia Vasseur, la coopération japonaise a fait la même chose, avec vraiment des résultats qui nous donnent à réfléchir. Une obstétrique de plus en plus agressive, malheureusement. On aura l'occasion d'y revenir peut-être dans la synthèse. Donc il faudrait des soins de plus en plus humanisés. On en a parlé récemment au congrès de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique à Libreville, il y a une dizaine de jours. Et c'est ce que recommande l'OMS, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était depuis 1985, lors d'une conférence régionale qui s'est tenue à Fortaleza, au Brésil. Et la plupart des pays étaient fébriles. Jusqu'au tour des années, fin des années 90, début 2000. Le Japon a eu l'avantage aujourd'hui d'avancer dans ce domaine, avec l'accouchement freestyle, à style libre, etc. Et c'est des recommandations applicables, reproductives, dibles, peu coûteuses. La Nouvelle-Zélande sue. À Paris, il y a une clinique qui s'intéresse de plus en plus à cela, la clinique Les Bleus, publicité gratuite, je ne suis pas actionnaire là-bas, je vous assure, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter comme élément déjà de réflexion. Nous sommes tous d'accord. Encore faudrait-il les mesures d'accompagnement de grâce. Quand vous avez des centaines de sages-femmes qui chôment dans un pays, ce n'est pas cette tribune-là qui va régler le problème. Est-ce que vous avez vu un agent de santé, un agent du ministère de la Santé ici, depuis l'ouverture? Si ce n'est pas le ministre, au moins les démembrements. Dans cette même salle, on a tenu, lors des journées médicales de 2006, un symposium sur les SONU. Et je vous dis que c'était houleux. Mais on ne peut pas avancer sans eux. Je suis désolé. Ce n'est pas les anthropologues ou les médecins qui vont recruter. Je suis désolé.
Mr. Chairman, with all due respect, I'm a little bit confused because a lot of things have been said, but there doesn't seem to be any direction. We're just talking here and there. It appears we are going to leave this room. Some of us are going to leave more confused, and I'm one of those that will be more confused. Because a lot of things have been said. Very many good things have been said. Very many good things have been said. But I don't see a direction, the way forward, as to what we should be doing after this conference. And this is always the problem in African countries. We come to meetings and say all sorts of things, we describe the problem, but there's always no pathway forward. I'm so much afraid that we're going to leave this conference not agreeing on what we should do after this meeting. So many good things have been said. For example, somebody has talked about the need for needs assessment. Somebody has talked about tax shifting. Somebody has talked about antenatal care. Why do women have antenatal care but don't deliver in hospitals? And some answers have been proffered. But it appears we're just talking and nobody's. I don't know, what are we going to do next? I'm so much afraid that we're going to leave this meeting. And I see this as a potential source through which we can get to all the areas of transformation that we want for maternal health in this African region. I see this conference as very, very important. I can see it because I've been attending conferences, and from what I'm hearing today, I'm very positive that this conference can turn out to be a very positive influence on maternal health. But the way we are going, we are just talking, and I fear, and I'm challenging because we are having a roundtable, and that roundtable was supposed to have an objective. What are we discussing? What are the way forward? What are the points? But it's not coming out. I just wanted to raise that and flag that we should be more consistent. We should be more proactive. We should be more structured in the way we make, so that this conference will be meaningful so that when we live here and all of us come from Niger, from so many other countries, Mali, this is one of the most comprehensive African gathering I've seen in recent months. And so please, ladies and gentlemen, let us be more consistent and more structured. So many good presentations. So many good presentations. But the action plan is not evolving. And if we live here without evolving action plan, it will be nothing. Please, let us be more consistent. And hopefully, tomorrow and Thursday, we should come out with resolutions that will guide us the way forward. Thank you.
Il faudrait qu'on sorte d'ici avec des mesures concrètes. Le diagnostic, il est connu. Les causes de décès maternels sont connues. Les stratégies sont ébauchées. Les interventions efficaces, novatrices, peu coûteuses, réalistes, on les connaît. Encore faudrait-il qu'on débouche ce soir et ces deux jours qui restent sur des recommandations pratiques et un plan d'action. C'est bien ça. D'accord. Je crois qu'il faudrait tenir compte de ça. Je ne vois pas M. de Bernis, je ne vois pas Alain Prual. Étant entre autres, je crois que c'est très pertinent ça, qu'on en tienne compte. Pour qu'on n'ait pas un colloque de plus. Merci. Y a-t-il deux autres intervenants, s'il vous plaît, avant la clôture? Oui, allez-y, monsieur. Ensuite, Madame Anou Montebeswan.
Merci. Moi, je crois qu'il faut quand même une note de prudence. Parce qu'en fait, bon, nous avons l'habitude de dire bon, que tout est connu, bon, qu'on connaît les interventions, qu'on connaît. C'est vrai, qu'on les causes, on connaît. Mais le problème est qu'en fait, hein, bon, il y a un problème au niveau de la mise en œuvre. Enfin, la manière dont nous mettons en œuvre, et Luc l'a souligné tout à l'heure, on a un problème de la mise en œuvre. Quand on cite des choses, mais quand on regarde, étant donné que nous ne documentons pas la mise en œuvre et que nous n'évaluons même pas, nous n'avons aucune idée aucune réelle idée de ce que nous mettons en œuvre. Donc la mise en œuvre, c'est le gros problème. La mise en œuvre et le monitoring et l'évaluation, c'est le gros problème. C'est vrai. Et je crois que bon, c'est là où je vois l'appui des anthropologues. En fait, ils sont tous entendus depuis hier. Et ça aujourd'hui, et cela montre hein, qu'il y a encore des paramètres qui nous échappent surtout dans la mise en œuvre des activités, des interventions. Merci.
Merci, monsieur. Autrement dit, le maître mot, c'est de mieux comprendre pour mieux agir. Donc, des propositions concrètes, débouchant sur des actions concrètes. C'est ça qu'on attend. Madame Montebeswan, à nous.
Merci, Monsieur le Président. Moi, c'était juste pour partager une inquiétude que j'ai toujours en me posant la question. En Afrique, on se trouvait avec... un système de santé, je dirais, que quand nous étions plus petits, en grandissant, qui était plus ou moins fonctionnaire, qui répondait quelque part aux besoins. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est une question beaucoup plus, une question de gouvernance? Ça, c'est la première question. Réflexion. La deuxième réflexion aussi, je vois que chaque fois on se trouve avec les nouvelles innovations, finalement, pour répondre aux questions de santé. Nous sortons tous de congrès avec ces réflexions-là, et je me suis dit que pourquoi ça se passe qu'il y en a certaines pays qui finalement vraiment qui met en œuvre et puis les autres ne met pas en œuvre. Voilà une question. Et puis maintenant, une troisième réflexion, c'est un peu vraiment dans le sens que je commence peut-être un peu dans la même ligne comme le docteur professeur Friday. Je commence à me poser la question, est-ce que finalement on n'est pas en train de on ne va pas trouver, pas totalement, mais à une certaine mesure, trouver une possibilité où on déplace les problèmes, n'est-ce pas, pour que ce soit un problème d'anthropologie, un problème de comportement et un problème vraiment de la communauté. quand finalement il y a toute une grande, grande lacune en ce qui concerne le système de santé et même. C'est pourquoi je faisais la réflexion par rapport et avant, quand ça marchait, est-ce qu'on avait recours finalement aux questions de ne pas comprendre vraiment les populations. Voilà un peu vraiment ces questions que je me pose, parce que si on écoute bien, je pense que c'est Virginie, n'est-ce pas?
Patricia,
qu'est-ce qu'elle a présenté? Cet comportement de sage-femme là, c'est, pour moi, c'est un peu comme si c'est une construction qui est venue à cause d'un milieu de système de santé, l'environnement, qui est vraiment strictement système de santé, qui était en défaillance, et la sage-femme a trouvé une manière vraiment s'est adaptée vraiment dans cette situation-là. De sorte que les pratiques qu'elle avait apprises, qui étaient les pratiques basées sur les évidences et les sciences, elle n'a pas trouvé sur place vraiment un environnement qui soutenait pour qu'elle s'approprie et puis ça soit vraiment une action durable. Donc c'est un peu vraiment, peut-être je me trompe, mais c'est un peu dans ce sens-là que je pense que peut-être il y en a quelque chose à y réfléchir avant qu'on trouve trop vite les panacées vraiment dans le comportement et puis de chaque. Bien que je dis que c'est très bien, les études-là, ça nous donne aussi une manière d'y faire, mais ce n'est pas 100%. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole à Mme Vasseur, Patricia.
Oui, moi je voulais ajouter un mot parce que là on avait l'impression de tourner en rond. Et en fait, je crois qu'on ne tourne pas du tout en rond, c'est parce qu'on arrive au cœur du problème. Et c'est toujours difficile d'articuler justement la réalité avec les théories. Donc je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie. Maintenant, pour parler des mises en œuvre qui étaient évoquées tout à l'heure, défauts dans les mises en œuvre, une solution, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est déjà d'intégrer l'anthropologie dans tous les projets. À la base des projets. Les concevoir, il y a encore beaucoup de projets où on n'intègre pas cette discipline là, au bas de l'échelle, quoi. Hein ? Si vous prenez l'OMS, etc., il y a une composante anthropologique, mais ce n'est pas l'anthropologie dans la santé maternelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, ça rejoint ce que disait Yannick hier, mais moi, avec l'expérience que j'ai, c'est qu'il faut vraiment former les professionnels en intégrant aussi l'anthropologie. Les médecins, les sages-femmes, ce que je vous ai présenté là et ce que j'ai fait par la suite au niveau des rencontres miroirs et d'autres choses montrent que les gens sont de toute façon réceptifs. Et même s'ils ne sont pas dans les bons contextes, les routines ne sont jamais définitives. Donc il y a un peu d'espoir. Merci.
Pour cette suggestion qui mérite d'être retenue, hein. Former les agents de santé à l'anthropologie, intégrer l'anthropologie. Ça, je crois qu'il faudrait retenir ça dans les recommandations. Encore une fois, Mme Anno Motebessan l'a dit, assistance qualifiée à l'accouchement, c'est bon, c'est le vœu aujourd'hui de la communauté internationale. Encore faudrait-il que ce soit fait dans un environnement qualifié, accrédité aussi. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci, Madame Anou. Madame Bellascaban, qui a la double casquette d'agent de santé, médecin et socio-anthropologue. C'est bien ça. Merci, Madame. Allez-y. Je vous en prie. Micro. Passer pour nous donner votre...
Oui, moi, à ce moment du débat, je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Je suis d'accord avec Patricia Vasseur. On est au cœur du problème. Et je crois que dans cette rencontre pluridisciplinaire, où finalement on est en train un petit peu soit de désigner des teneurs de vérité, soit d'opposer des grilles de lecture, je crois qu'il est extrêmement important de comprendre qu'il y a effectivement plusieurs grilles de lecture et que la richesse, ce n'est pas d'imputer ni la vérité à certains corps professionnels, ni d'imputer la responsabilité à un seul facteur qui pourrait être effectivement une construction d'une profession. Effectivement, les anthropologues le diront mieux que moi, ceux qui en ont fait vraiment leur métier, c'est que les normes ne se construisent pas d'une façon éthérée, mais dans un contexte, et que le contexte sociopolitique est extrêmement important, et qu'effectivement un système de santé qui est de qualité avec des politiques qui effectivement prennent leurs responsabilités en nommant des personnels en quantité suffisante, en les formant de façon correcte, aussi bien de façon au moment de la formation initiale que de la formation continue, en permettant un accès aux soins par différents truchements, il y a les forfaits, il y a les exemptions de soins. Je crois que c'est tout cet ensemble qui nous convient de rassembler et non de diviser en désignant les uns et les autres, qui pourra nous permettre d'avancer. Et effectivement, les normes se construisent, mais n'y a-t-il pas dans la... Puisqu'on parle là des sages-femmes, moi je pense que si on faisait les mêmes études chez les médecins, on trouverait des attitudes extrêmement en miroir, notamment sur la déconstruction des savoirs, notamment sur la fuite, notamment, enfin, ça serait d'autres stratégies, et qu'il y a des stratégies de défense. Je crois que le témoignage de Rachel tout à l'heure était extrêmement important, parce que on la voyait, cette sage-femme qui courait à travers, et au bout d'un moment, eh bien, effectivement, elle ne peut plus voir. Parce que si elle le voit, de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'a que deux mains, elle ne peut pas y arriver. Donc, effectivement, c'est là qu'il va y avoir celle qu'on connaît, celle qui a pu avoir une existence, là je pense aux travaux de Yannick, effectivement. Et je crois qu'on ne peut pas dire, ah ben alors maintenant on va mettre tout sur l'anthropologie, ou alors tout sur les systèmes de santé, ou tout sur le politique. C'est bien de se réunir et d'utiliser chacun, je redis, c'est vrai, c'est à la fois la mutualisation des connaissances, la cohérence de l'aide au développement, parce que dans toutes les... J'ai envie de dire, dans toutes les sollicitations que chaque organisme, chaque d'aide au développement sollicite, toujours les mêmes médecins, les mêmes professeurs qui courent les congrès, qui courent les comités de pilotage, qui ne sont pas non plus dans les services. Alors les sages-femmes, elles bougent moins parce que souvent elles sont mariées, elles peuvent moins bouger aussi. Sinon elles bougeraient, n'en doutons pas. Je crois qu'il y a un ensemble de facteurs et il est important, et je crois que c'est moi, je trouve qu'on ne s'ennuie pas dans ce colloque parce que justement, on parle vrai, on parle de choses qui, du coup, fâchent. Mais gardons-nous de nous diviser en se disant « Ah, vous vous dites que vous avez la vérité. » Oui, l'anthropologie dans les formations médicales, mais ça ne va pas suffire s'il n'y a personne, si les médicaments, les pharmacies sont vides, s'il n'y a pas de consommables et s'il y a insuffisamment d'agents. Je crois que c'est tout ça qu'il fallait dire, enfin, qui me paraît important.
Madame, vous voulez dire quelque chose? Encore? Allez-y.
Je voudrais vraiment insister sur la cohérence dans les interventions. Et ça, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un des problèmes fondamentaux de la mise en œuvre des programmes, surtout des programmes en matière de santé et de la reproduction. Parce qu'il y a plusieurs sons de cloche de plusieurs organismes différents. Moi, j'ai dit une fois, c'est vrai que l'OMS a cette faculté normative, c'est qu'il y ait cette cohérence, que les normes et les standards soient, qu'on soit tous d'accord sur ces aspects. Vous savez qu'il y a eu un moment où, sur le terrain, on a une confusion terrible entre est-ce que l'accouchement professionnel, l'accouchement par voie basse assistée, c'est celui-là qui répond à la définition d'accouchement qualifié. Mais je vous dis, nous avons vécu des périodes où, selon les agences, il y a une vision différente.
Tout à fait.
Est-ce qu'on reconnaît l'accouchement d'une accoucheuse traditionnelle comme qualifiée? Mais beaucoup de nos pays, les statistiques de l'accouchement assisté par un personnel qualifié, c'est pour cela que c'est à 40%, c'est en dessous de même la couverture sanitaire effective des pays. Donc, il faut qu'on s'entende sur les normes. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça relève de l'harmonisation et de la coordination. Et ça, c'est un simple exemple, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc,
C'est ça, les réalités du terrain, il faut qu'on s'accorde, qu'on harmonise les interventions. Les interventions coûts efficaces, d'abord, d'accord, mais quelle est leur définition? Quelle est la procédure de cette intervention? On est d'accord là-dessus, on a fait des normes et des procédures, on met dans un centre de santé intégré et le personnel est formé pour l'appliquer. Voilà ce qu'on doit faire.
Merci.
Merci.
Thank you, Mr. Chairman. I've heard of two keywords around...
Okay. Entendu, monsieur l'interprète. Entendu. Go ahead.
Okay, yes. I've heard of two keywords around healthcare providers, especially when they are trained, when they do retraining, and they come back to their services. One thing which I've not heard, I mean, I've heard of monitoring, I've heard of supervision, I've heard of evaluation. One thing which I've not heard is that of mentoring. One of the things which happens when somebody is trained and he goes back to his service is that that person is considered like already trained and he already knows everything and is forgotten about him. It's just like washing a child in a basin and throwing that basin out with the child. So you will not have the child again. So so that is something that has been lacking in many of our programs. You train, you send them even to Europe, they come back, and then you say, okay, that one knows. No follow-up, no monitoring. So I think we should start thinking of having some of these people trained, even from the training schools, and mentoring them for some time, and they will become monitors to others who will be trained. In fact, IPAS is trying to introduce the idea of mentoring to see how, you know, that training is sustainable some years after. So we should think of including mentoring in our vocabulary. Thanks.
Thank you for this idea.
Je voudrais rassurer le professeur Okonofoa, c'est exactement l'objectif de ce colloque. C'est inhabituel, c'est vrai, de mélanger un public aussi différent, mais c'est aussi l'objectif de se challenger les uns les autres et de voir comment on peut mieux travailler ensemble, mieux comprendre pour mieux agir. On l'a dit, on le répète, mais je crois que le titre du colloque est parlant. Et l'idée, c'est quand même que jeudi, on tourne un peu plus autour de cette question, sur quoi va-t-on déboucher, sur quelles étapes ensuite. On va évidemment pas sortir avec une recette toute faite pour faire des programmes de santé publique, mais on va au moins essayer de prévoir les prochaines étapes, comment ensemble on peut mieux avancer et mieux supporter et conseiller les gouvernements, puisque je crois que c'est ça, on l'a dit et c'est redit, c'est ça les personnages clés qu'on doit viser avant tout, plus que tout le reste, quoi. Voilà, c'était juste.
Merci Alain, c'est bien dit, c'est le mot de la fin. Merci, mesdames, messieurs. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah.